Ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présent ce soir dans le cadre de ces soirées santé. Je tenais à remercier la librairie Mola de nous donner l'opportunité de discuter de différents thèmes reliant la santé ensemble et puis également le CHU. Moi, je suis Alban Fivier, je suis docteur junior en allergologie au CHU de Bordeaux. Et j'ai le plaisir ce soir donc, d'intervenir avec le docteur Céline Palucia, que je laisse te présenter.
Oui, bonjour à tous. Moi, je suis allergologue en ville. Je suis installée à Senon et je suis attachée au CHU de Bordeaux plutôt pour les explorations des allergies médicamenteuses. Et je suis par ailleurs présidente du Conseil national professionnel d'allergologie. Et je vous remercie également d'être là et je remercie le CHU et la librairie Mola. C'est toujours un grand plaisir de venir parler de notre belle spécialité.
Donc on va parler des allergies respiratoires ce soir. Donc on parle souvent du petit rhume ou de la sensibilité saisonnière, mais on verra que derrière il y a de vraies pathologies avec parfois des complications. On évoquera dans un premier temps donc qu'est-ce que l'allergie, quelles sont les réactions, quelles sont ses manifestations, et puis on verra ensemble comment les prendre en charge et puis surtout quels sont les différents acteurs de cette prise en charge. Donc l'allergie, qu'est-ce que c'est ? C'est une pièce de théâtre qui se déroule en deux actes. Le premier acte, c'est la phase d'exposition. C'est le premier contact entre le système immunitaire et un allergène. Donc c'est une phase qui est asymptomatique. Donc on dit qu'elle est muette. Hein, le patient ne s'en rend pas compte. Le système immunitaire est en contact avec l'allergène. Il va produire des anticorps. Dans le cadre de l'allergie, il s'agit des immunoglobulines de type E. On parle d'IgE. Et ces anticorps vont venir se fixer sur les cellules de l'allergie, que sont les mastocytes. Et donc ça, c'est la première phase. S'ensuit ensuite la seconde phase, donc la phase de révélation, le second contact du système immunitaire avec l'allergène. Et dans ce cas-là, les immunoglobulines E activent les mastocytes. Et ces mastocytes vont libérer différents médiateurs qui vont être responsables des symptômes, donc le nez qui coule, les yeux qui grattent ou encore les difficultés respiratoires. Alors pourquoi le corps s'emballe ? Donc les immunoglobulines E, elles sont présentes à l'état naturel dans notre corps et initialement, elles ont plutôt un rôle de défense contre les parasites. Mais des parasites, on n'y est plus trop, on n'est plus trop en contact avec les parasites et donc on a un système de défense qui s'ennuie. Et quand on a un système de défense qui s'ennuie, il va trouver des choses à faire et donc il va se retourner contre des choses qui, a priori, sont inoffensives, que peuvent être des pollens, des fanères d'animaux, de chats, de chiens ou encore des acariens. Donc dans la réaction allergique, les immunoglobulines activent les mastocytes qui libèrent les différents médiateurs. Et le principal médiateur qui va être libéré, c'est l'histamine. Et l'histamine, c'est elle qui va avoir le rôle de réaliser donc les différents symptômes de l'allergie. Donc au niveau du nez, une vasodilatation qui va entraîner donc le nez qui coule, le nez qui se bouche. On a également l'activation des cellules C, des fibres C, qui vont entraîner cette sensation de grattage. Donc ça peut être on parle de prurite, un grattage au niveau du nez, au niveau des yeux. Et on a également une bronchoconstriction, donc les bronches qui vont venir se resserrer, le muscle qui va se resserrer et qui va entraîner donc ces difficultés respiratoires.
Côté épidémiologie, on en parle beaucoup. C'est l'augmentation continue et importante des phénomènes allergiques. Les allergies, ça concerne près d'un quart de la population dans les pays occidentaux. Et l'asthme, c'est quand même 10 à 15% des enfants. L'augmentation, elle est continue. Et les allergies, finalement, ça peut apparaître à tout âge. Souvent, ça commence dans l'enfance. Mais on voit régulièrement en consultation des patients qui déclenchent des allergies à l'âge adulte et parfois même à un âge avancé. Alors, les données françaises confirment cette prévalence importante, puisque près d'un patient sur quatre souffre d'allergies respiratoires, donc c'est même sans compter les allergies alimentaires ou les autres types d'allergies. Et puis, quand on a de la rhinite allergique, les allergies commencent souvent par la sphère ORL, c'est la porte d'entrée des allergènes. Le risque d'atteinte des voies respiratoires inférieures est bien sûr augmenté, puisqu'une personne sur trois qui a de la rhinite allergique risque de développer dans les années suivantes un asthme avec une grande proportion de causes allergiques, puisque l'asthme, c'est une pathologie pluri-étiologique. Il y a plusieurs facteurs qui font de l'inflammation au niveau des bronches. Et l'allergie, c'est la principale cause chez l'enfant. Près de 8 fois sur 10, la cause est essentiellement allergique. Et chez l'adulte, c'est 30 à 50% des cas. Alors, les allergènes les plus fréquemment en cause dans les allergies respiratoires, c'est la saison en ce moment. On est en mois d'avril, il y a les pollens. Alors, il y a différents pollens. Le pollen, c'est un terme générique qui peut venir de plusieurs sources végétales. Et en ce moment, on est dans les pollens d'arbres. Le bouleau, le frêne, le cyprès, qui sont des arbres qui pollinisent plutôt en début de saison, parfois même dès la fin de l'hiver pour le cyprès. Et selon les essences d'arbres, on a des pics de pollen qui se succèdent. En fin de printemps, on arrive sur les pollens des graminées, donc les herbes folles, hein, c'est le rhume des foins. Et puis les herbacées sont des pollens un petit peu plus tardifs qui arrivent sur l'été. L'allergie à la poussière est due aux acariens, ces petits arthropodes qui se nourrissent des squames que nous perdons tous et qui aiment la chaleur et l'humidité. Donc on comprend que dans un lit, il y a absolument tout pour rendre un acarien heureux. Les moisissures. Les spores peuvent être émis dans les habitats quand il y a de l'humidité. Ça fait des taches d'humidité un peu au plafond, sur les murs, dans les endroits où l'air circule mal. Et puis des moisissures sont émises aussi dans la terre, dans les feuilles en décomposition. Et ça, ce sont des spores qui sont présents en été, quand il fait chaud et sec. On parle bien entendu des poils d'animaux. Et c'est surtout les chats qui vont être responsables de beaucoup d'allergies respiratoires. Mais il y a évidemment les chiens ou les rongeurs, notamment en milieu professionnel, et les blattes ou cafards. De grandes études internationales ont donc montré cette augmentation importante de la prévalence des allergies. Il n'y a pas de très récente, mais il y a vraiment cette augmentation avec, de base, un facteur génétique très important, c'est ce qu'on appelle l'atopie. Cette prédisposition génétique a développé tout ce champ de pathologies, les allergies respiratoires, alimentaires ou cutanées. Avec, voyez, une couverture importante au niveau médiatique. Ça, c'est une petite couverture du journal de l'INSERM qui date de l'année dernière. Bientôt tous allergiques, puisque les prévisions de l'OMS montrent un risque de prévalence de l'allergie de 50% de la population au niveau mondial en 2050.
Donc il y a des causes génétiques au fait de développer des allergies, mais pas que, il y a aussi et même surtout des causes environnementales. En effet, on vit dans un environnement qui est de plus en plus pollué, qui est de plus en plus chaud, et avec une alimentation qui est de plus en plus transformée. Et ça, c'est un ensemble d'éléments qui vont favoriser le développement des allergies. Il y a plusieurs hypothèses qui ont émergé. On a notamment la théorie des barrières, qui indique que le fait que notre environnement soit de plus en plus agressif vis-à-vis de nos barrières naturelles, qui peuvent être la peau, qui peuvent être les bronches, cela va venir fragiliser ces barrières et favoriser le passage des allergènes et le mettre directement en contact avec notre système immunitaire. Également, la théorie hygiéniste, qui indique que dans l'enfance, on est de moins en moins en contact des infections, mais également des allergènes. Et finalement, notre système immunitaire, il a du mal, il ne sait plus comment réagir face à ces stimuli. L'ensemble donc des expositions auxquelles nous sommes confrontés, on parle d'exposome. C'est l'ensemble des éléments qui vont faire qu'on va développer plus ou moins, et plus ou moins rapidement, des allergies. Alors pourquoi la ville favorise-t-elle des allergies? Déjà, en ville, nous sommes en contact avec certains éléments, mais surtout on est moins en contact avec d'autres, notamment les animaux d'élevage ou encore les moisissures. Et comme le dit la théorie hygiéniste, si on est moins en contact, le système immunitaire a du mal à réagir et a du mal à réagir correctement une fois qu'il est en contact avec eux. Également le trafic routier, donc ça génère de la pollution. Et là, à nouveau, c'est la théorie des barrières. La pollution va venir irriter nos différentes barrières, favoriser le passage des allergènes. La notion de dôme de chaleur, donc la façon dont sont actuellement construites les villes, où on a donc des grandes zones bétonnées avec des zones végétalisées, va favoriser la formation de dômes de chaleur, et ces dômes de chaleur vont venir concentrer les différents allergènes au sein d'un seul et même endroit. Également, on peut parler des asthmes d'orage. Alors, ça a beaucoup été décrit, notamment en Australie, mais c'est de plus en plus décrit en Europe. Donc, le fait est que quand il y a de fortes dépressions et qu'il y a des orages avec beaucoup de vent, ça va mettre en suspension une grande quantité de pollen. Et ça va entraîner des symptômes d'autant plus importants. Alors, végétaliser, donc mettre des végétaux en ville, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? D'une manière générale, on a plutôt tendance à dire oui, mais en allergologie, on va nuancer un petit peu les choses. Des études ont mis en évidence un lien important entre la concentration de pollen et l'exacerbation. Il ne suffit pas juste d'être allergique, mais quand il y a une grande concentration d'allergènes, on présente des symptômes d'autant plus importants. Également, quand on va végétaliser actuellement, le choix se porte vers des espèces qui sont très résistantes et qui vont être à croissance rapide. Et ces deux caractéristiques, ce sont des plantes qui produisent énormément de pollen. C'est un problème. Il y a également un phénomène de stélicisme botanique. Parce que certes, on veut des plantes, on veut des fleurs, mais on ne veut pas de fruits. Les fruits, ça tombe, les fruits, ça pourrit, il faut entretenir, il faut ramasser. Et donc ça, on veut éviter. Et donc pour cela, ce sont surtout des plantes mâles qui vont être choisies. Ces plantes mâles, certes, elles ne produisent pas de fruits, mais elles produisent énormément plus de pollen que les arbres femelles. Les surfaces bétonnées, qui sont souvent donc juste à côté des surfaces végétalisées, ça va modifier le flux d'air au contact donc des surfaces végétalisées et mettre en suspension une grande quantité de pollen. Enfin, il y a des études qui ont montré également le lien direct entre les pollens et les polluants. C'est-à-dire que les pollens, une fois qu'ils sont en suspension, sont déjà gênants, mais lorsqu'ils vont être en contact de la pollution, ils vont être fragmentés, ils vont être abîmés par cette pollution, et ils vont devenir de petites particules encore plus petites qu'ils ne sont déjà, et ça, ça va pénétrer encore plus profondément dans l'arbre respiratoire et entraîner des symptômes d'autant plus importants. Alors, dans l'allergie respiratoire, pourquoi le nez, pourquoi les yeux, pourquoi les poumons? Alors, tout simplement, car ce sont les principales barrières avec notre environnement. Le nez, il a pour rôle de filtrer l'air. À l'intérieur du nez, il y a des poils, il y a des excroissances qu'on appelle des cornets. Et tout ça, ça a pour but de réchauffer l'air et de le filtrer. S'il filtre l'air et qu'il y a une grande quantité de pollen au niveau du filtre, forcément, localement, il va y avoir de l'inflammation, il va y avoir des symptômes. Pour ce qui est des yeux, c'est la même chose. Les yeux, donc, c'est une muqueuse qui est très fragile. Alors, même si on a des systèmes de défense, hein, on cligne des yeux, on a les cils, les sourcils pour essayer de nettoyer tout ça et de les protéger. Malgré tout, les particules de pollen sont tellement petites qu'elles vont évidemment aller au niveau des yeux et entraîner également de l'inflammation. Enfin, au niveau des poumons, c'est la même chose. Donc l'air passe au niveau du nez, va ensuite dans la trachée, dans les bronches et puis au niveau des poumons. Et là encore, le contact des allergènes ou des irritants au niveau de la muqueuse bronchique va entraîner de l'inflammation et ainsi des symptômes. Et donc au final, avec ces trois barrières, on a nos trois principales maladies allergiques au niveau respiratoire, la rhinite allergique, la conjonctivite et l'asthme. Donc la rhinite allergique, quels sont les principaux symptômes? Donc, c'est essentiellement le nez qui coule, on parle de rhinorrhée. La rhinorrhée, elle peut être soit antérieure, quand le nez coule vers l'avant, ou bien postérieure, quand ça va couler au fond de la gorge. On peut avoir ce sentiment de gêne au fond de la gorge, avec un raclement au niveau de la gorge, on parle de hémage. On a également des éternuements qui sont quelque chose de physiologique. Le corps essaye de se débarrasser de quelque chose qui le gêne, et donc il va essayer en faisant une grande contraction musculaire pour essayer donc d'expulser l'allergène. On peut également avoir une diminution de l'odorat ou une perte de l'odorat, on parle d'anosmie. On peut également avoir une diminution ou une perte du goût. On connaît le rôle important du nez dans le fonctionnement du goût, et on peut avoir une diminution ou une perte du goût. Le prurite nasal, donc le nez qui gratte, on l'a évoqué, mais également l'obstruction nasale, donc on va avoir du mucus qui va être produit pour essayer d'éjecter ce pollen, et donc ça va obstruer les narines. La conjonctivite allergique, donc on a les yeux rouges, les yeux qui grattent, et certaines personnes ont également des petites sécrétions, donc le corps essaye d'envoyer des soldats pour détruire ces pollens, mais donc ça donne ces petites sécrétions qu'on a au coin des yeux. Donc là, sur notre diapo, on a un patient qui n'a pas bien écouté les consignes parce qu'il ne faut pas gratter. Surtout, il ne faut pas gratter les yeux parce qu'on va rajouter un facteur mécanique d'irritation à l'irritation qui est déjà présente, à l'inflammation qui est déjà présente. Donc là, on voit sur l'œil droit, déjà, il n'est pas clair, il est déjà un peu rouge. Et alors l'œil gauche, là, il a gratté, c'est terrible. Et donc enfin, on a l'asthme. L'asthme, c'est ni plus ni moins qu'un coup de soleil au niveau des bronches. Quand on a un coup de soleil, donc le facteur déclenchant, c'est le soleil, et on va avoir une peau qui va devenir rouge, inflammatoire, et qui va suinter. L'asthme, c'est la même chose au niveau des bronches. Alors le facteur déclenchant, ce n'est pas le soleil, ce sont les irritants, ce sont les allergènes, mais on va avoir la même chose. On va avoir une muqueuse qui va être irritée, inflammée, et qui va suinter. Et donc du coup, on va retrouver les principaux symptômes d'un tube qui n'est plus tout rond, tout lisse, mais qui est inflammatoire et qui est légèrement rétréci. Donc on a des sifflements. L'air passe dans un tuyau qui est beaucoup plus fin, qui est beaucoup plus réduit qu'habituellement. On a également les difficultés respiratoires, on parle de dyspnée, cette dyspnée peut être de repos ou bien d'effort. Une toux, comme les éternuements, c'est un système naturel, on essaie d'extraire l'allergène. Alors les symptômes d'asthme sont principalement la nuit, et pour plusieurs raisons, déjà du fait de la position allongée qu'on adopte en dormant, qui favorise la stagnation des sécrétions au niveau des bronches. Donc on a souvent les patients qui vont mettre 2-3 oreillers derrière la tête pour pouvoir être en position demi-assise, ce qui les aide à respirer et à mieux dormir. Il y a également des facteurs immunologiques, des facteurs endocriniens, avec la production de cortisol qui est plutôt produite le jour, et c'est un anti-inflammatoire naturel, on a moins de cortisol la nuit, donc un peu plus d'inflammation. Et on a également cette sensation d'oppression au niveau du thorax, hein, comme une douleur hein, du fait que le système respiratoire essaye de forcer, malgré le fait que via l'inflammation, il a du mal, il faut passer à travers les sécrétions. Ouais, donc cette diapositive, elle parle, elle résume un petit peu les différents éléments auxquels nous sommes exposés, donc l'exposome qu'on évoquait tout à l'heure. Donc nous sommes exposés à des éléments à l'intérieur de nos domiciles. Ça va être donc les allergènes, les fanères de chat, les fanères de chien, les acariens ou encore les moisissures. Mais c'est également tout ce qui va être irritant, donc ça va être les produits du quotidien, ça peut être les produits ménagers, ça peut également être les huiles essentielles qui sont diffusées. Les allergènes que l'on retrouve à l'extérieur, les pollens principalement, mais également donc la pollution qui va venir attaquer l'arbre bronchique. Nous avons également l'exposome lié au travail, donc ça va être principalement les poussières qui vont être mises en suspension, souvent dans le travail du BTP ou quand il y a du travail, le travail du bois par exemple. Et enfin, tout ce qui est lié au mode de vie, la pratique sportive, le tabac principalement, et également l'alimentation. Donc finalement, la rhinite allergique, sur le principe, le nez qui coule, on n'a pas l'impression que c'est si grave que ça. Mais, comme l'a dit le docteur Palussière, il y a 30%, un tiers des patients qui ont une rhinite allergique, qui vont avoir de l'asthme. Donc, association fréquente. Également, il y a un lien important avec la diminution et la perte de sommeil. Ça a des conséquences importantes, notamment chez l'enfant, avec une diminution et un ralentissement des apprentissages. Il y a également des études qui ont montré, qui ont fait le lien entre rhinite allergique et accident de la route. Devant la diminution du sommeil, les patients sont somnolents au volant, et ainsi, donc, ils vont avoir des accidents de la route plus fréquemment s'ils ont une rhinite allergique que s'ils n'en ont pas. Ça a également un impact social et sociétal. La rhinite allergique, ça coûte très cher, plusieurs millions, plusieurs milliards par an. Et également, c'est beaucoup, beaucoup de journées d'activité perdues, beaucoup de journées sans travail. Enfin, donc, comme on l'a dit, le lien directement avec l'asthme, et l'asthme, ça tue. L'asthme, c'est 1000 décès par an en France. 3 personnes meurent chaque année, chaque jour, en France, d'asthme. C'est énorme. Pour une pathologie qui est très bien connue et avec des thérapeutiques qui sont très bien codifiées. Donc, ne pas minimiser la rhinite allergique, parce que l'asthme derrière n'est pas très loin et les conséquences peuvent être dramatiques.
Il y a beaucoup d'allergiques en France. Il y a peu d'allergologues. Alors, il faut s'organiser. Donc, comme toute profession médicale, comme toute spécialité, la gradation des allergies va être ciblée en fonction de la sévérité et du coup, la prise en charge doit être adaptée. En niveau 1, c'est la prise en charge faite par les professionnels de santé de première ligne, les médecins traitants, les pédiatres, mais également les biologistes et les pharmaciens qui peuvent être de conseil pour les allergies simples. Donc là, c'est les allergies plutôt bénignes, plutôt brèves dans l'année. Parfois, ça va se compliquer. Et à partir du moment où les allergies deviennent complexes, les symptômes sont sévères, ou alors elles arrivent très tôt dans la vie d'un enfant, il faut une prise en charge spécialisée. C'est là qu'interviennent les allergologues de ville. C'est le niveau 2 de l'allergologie. Et puis, parfois, on va avoir recours à des plateaux spécifiques avec un environnement sécurisé au niveau hospitalier pour faire certaines explorations qui demandent plus de mise en sécurité des patients. Et ça, c'est le niveau 3, avec des hospitalisations de jour et de plus en plus des unités transversales d'allergologie qui sont des véritables services d'allergologie au sein des centres hospitaliers ou de cliniques. À titre d'exemple, la rhinite allergique, sa prise en charge, elle est un petit peu stratifiée en fonction de la sévérité. Quand on a des symptômes encore ponctuels, légers, on va pouvoir simplement utiliser des mesures très simples, comme l'éviction allergénique, et puis des petits traitements symptomatiques au cas par cas. Et puis, au fur et à mesure que la sévérité augmente, on va augmenter les traitements avec des traitements locaux, et assez vite, on voit apparaître l'immunothérapie ou des sensibilisations, on va y revenir. Le tout, c'est que tout ça, ça soit adapté, puisque finalement, les allergies, comme elles sont pas toujours très bien connues, parfois banalisées, comme on l'a dit, il faut bien adapter les choses. On a vu qu'il y a beaucoup d'allergiques, qu'il y a 4 millions d'asthmatiques, dont les conséquences peuvent être très sévères, qu'il y a près de 1000 décès par an en France, 60 000 séjours hospitaliers. Et puis pourtant, les allergies, c'est souvent banalisé par les patients eux-mêmes, par leur entourage, par certains médecins. 50% des Français estiment que l'allergie, ce n'est pas vraiment une maladie. 60% des allergiques estiment que l'entourage banalise leur maladie. Donc on a une discordance entre la sévérité des chiffres et le ressenti et le vécu. Et tout ça, ça conduit à un parcours de soins qui a besoin vraiment d'être amélioré pour que la prise en charge, elle soit tout à fait adaptée à la sévérité de ce patient. On a des délais d'attente longs en service d'allergologie, donc il faut que la prise en charge initiale, elle soit adaptée, mais pas trop longue, et qu'elle ne soit pas, entre guillemets, polluée par des consultations qui n'auraient pas lieu d'être. Puis il y a des zones en France, ce qui n'est pas le cas ici, mais il n'y a pas d'allergologue, tout simplement. Donc, dans la prise en charge initiale, on va toujours avoir besoin de faire l'éviction allergénique. C'est tout simple, tout le monde connaît, mais est-ce que c'est toujours bien appliqué? On passe 80% de notre temps à l'intérieur, à la maison, à l'école, au travail. Et finalement, cet air intérieur, on sait qu'il est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Donc ça, ce n'est pas intuitif. Pourquoi c'est pollué l'air intérieur? Parce qu'on utilise des produits ménagers, parce qu'il y a parfois des moisissures. On a parlé des acariens tout à l'heure. Et puis, on utilise des meubles en bois. Le bois massif, maintenant, on n'en trouve plus. Donc, c'est du bois d'aggloméré avec libération de résine de formaldéhyde. Et donc, on a tous ces polluants intérieurs. Et parfois, on va en plus utiliser un peu de bougies parfumées ou d'huile essentielle parce qu'on aime bien quand ça sent bon. Et tout ça, c'est de la pollution intérieure susceptible d'irriter les bronches, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, les mesures d'éviction, elles sont très, très simples. Aérer tous les jours, un quart d'heure, 20 minutes. Ceci dit, si on n'est pas allergique, ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand même de le faire. On a parlé des acariens. Les acariens, c'est l'allergène de la poussière, donc bien entendu, ménage soigneux. Ce n'est pas la peine de mettre des produits anti-acariens qui n'ont pas montré leur efficacité, sauf éventuellement les housses anti-acariens pour les matelas qui permettent d'enfermer les acariens et de ne pas être en contact avec toute cette épaisseur d'acariens. Les animaux ne rentrent pas dans les chambres. On évite l'humidité. Si on peut, on trouve les sources. Parfois, c'était dans des habitats trop neufs, trop isolés, qui font vraiment qu'aux 4 minutes, il faut ouvrir, il faut des systèmes de ventilation passifs ou actifs. C'est les VMC, c'est les ventilations, les systèmes de ventilation. Et puis bien sûr, classiquement, on va limiter tout ce qui est coussins, tapis, peluches, notamment dans les chambres des enfants. Ça peut ne pas suffire, ces mesures de prévention. Donc on va utiliser les médicaments symptomatiques et dans un premier temps, on va pouvoir tout à fait avoir recours à l'automédication. Tout comme on prend un doliprane ou un paracétamol quand on a un peu mal à la tête ou un syndrome grippal, on ne va pas forcément consulter. On peut très bien, sur des symptômes légers, brefs, qui ne sont pas trop intenses, prendre un antihistaminique en automédication et ça, il n'y a pas de problème pour ça. Le lavage des fosses nasales ou des surfaces oculaires avec une solution salée, ça peut être du sérum physiologique, ça peut être des solutions marines, c'est très utile pour nettoyer cette surface et le contact du corps avec les allergènes. Et puis parfois, ça ne va quand même pas suffire tout ça, et il va falloir consulter. Alors, quand est-ce qu'on va voir un médecin parce qu'on a des allergies? En fait, si les symptômes sont longs, s'ils durent, s'ils deviennent vraiment gênants. Alors, c'est peut-être un petit peu subjectif, mais si on a des symptômes qui reviennent trop intensément et trop régulièrement, là, il faut consulter. Et dans un premier temps, comme on l'a vu tout à l'heure, selon le parcours de soins, les médecins de premier recours, médecins généralistes, les pédiatres. Alors, il fait quoi, votre médecin? D'abord, un interrogatoire précis pour essayer d'identifier avec le patient quels sont les facteurs déclenchants. Essayer peut-être d'identifier est-ce qu'il y a des situations un petit peu problématiques. Et puis, il y a souvent des diagnostics différentiels à éliminer. Le cas le plus fréquent, c'est un enfant qui a le nez bouché tout le temps. C'est assez difficile comme ça de savoir pourquoi. Le médecin traitant avec certains critères cliniques peut essayer d'identifier si c'est plutôt une hypertrophie des végétations, dans quel cas, peut-être qu'avant tout, ça sera l'ORL qui sera un avis spécialisé de premier recours, ou plutôt une rhinite allergique, et dans ces cas-là, ça sera peut-être l'adressage à l'allergologue. Le médecin traitant va faire évidemment un examen clinique, très simple mais important, et puis dans certains cas, on va prescrire un bilan biologique, par exemple le Fadiatope, qui permet de répondre à la question « Mon patient a une sensibilité IgE à certains allergènes ou pas ? C'est plutôt allergique ou plutôt pas ?» Et c'est plutôt un examen qui a montré une certaine fiabilité. Un traitement d'épreuve, c'est un traitement qui permet finalement d'orienter sur le diagnostic. Est-ce que quand je mets mon patient sous antihistaminique, il va vraiment mieux? Bon, là, ça va quand même être un argument assez orientant vers l'allergie. Ou est-ce que finalement, ça ne marche pas trop? On va peut-être chercher autre chose. Donc ça, c'est la première étape. Puis des fois, on ne s'en sort pas trop avec les mesures simples, avec les traitements symptomatiques, et on va avoir besoin de faire un bilan allergologique qui commence, lui aussi, par un interrogatoire qu'on dit policier. Donc l'allergologue, il pose beaucoup de questions. Hein, c'est vraiment parfois limite intrusif pour essayer de comprendre ce qui se passe et surtout d'évaluer la sévérité, le retentissement. Quel est le retentissement sur la vie quotidienne, sur la vie sociale, sur le sommeil? Est-ce qu'il y a déjà des signes un petit peu annonciateurs d'atteinte bronchique? Donc cet interrogatoire, il est vraiment important et il est répété à chaque consultation parce que les choses évoluent. On a des questionnaires aussi qui permettent d'avoir des scores par rapport à la sévérité et le suivi et l'efficacité des traitements. Les tests cutanés sont illustrés là sur cette image. Ça sert à reproduire ce qui se passe dans le nez, en fait, ou sur la surface oculaire. On va mettre sur l'avant-bras des extraits allergéniques. Ce sont des solutions qui contiennent une quantité d'allergènes standardisés, bien calibrés. Puis on va faire un petit pic, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer très superficiellement l'allergène au niveau de la peau. C'est quelque chose d'indolore et qui va provoquer la réaction allergique qu'on appelle la triade de Lewis. C'est papule, érythème, prurite. Pour faire simple, c'est un gros bouton de moustique. Et ça signe qu'il y a bien une sensibilité allergique à l'allergène qui a provoqué cette éruption. Il n'y a pas d'âge minimal. Avant, on disait pas avant 5-6 ans, il ne faut pas les faire. Bien entendu, on peut les faire. On a des enfants en consultation qui arrivent à 1 an et demi, 2 ans, et qui vont être positifs pour les acariens, pour les poils de chat. Les tests sont fiables tout petits. C'est juste que ça évolue dans le temps, donc on sera peut-être amené à les refaire, mais ça permet d'avoir un diagnostic précoce, donc ce n'est pas la peine d'attendre. Dans certains cas, on va prescrire un bilan biologique pour aller plus loin. Ça peut être en cas de discordance, parce qu'on a une clinique plutôt évocatrice, mettons, de pollen, et puis finalement, ça n'a pas réagi, donc on a un petit doute, ou parce qu'on a besoin de regarder plus précisément l'intérieur de nos pollens, quelles sont les protéines allergisantes, pour faire un diagnostic le plus précis. Et puis, on va faire des explorations fonctionnelles respiratoires. Donc, c'est le cas de ce monsieur dans sa cabine qui permet de faire le diagnostic et le suivi de l'asthme. Quand est-ce qu'il faut aller voir un allergologue? Ici, c'est la classification ARIA qui classe les rhinites selon leur durée dans l'année. Est-ce que c'est une rhinite plutôt intermittente, plutôt ponctuelle ou plutôt persistante? Et puis, selon la sévérité, elle peut être légère ou modérée à sévère. En gros, dès que c'est persistant ou modéré à sévère, il y a indication à un bilan allergologique pour une prise en charge spécialisée. On parle beaucoup de désensibilisation. Le terme, c'est immunothérapie allergénique. Alors, qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit plus de soulager. Il s'agit de rééduquer notre système immunitaire. Comme l'a dit le docteur Fievé, il a cru qu'un acarien, qu'un pollen, c'était dangereux et qu'il fallait faire tout un tas d'inflammations pour lutter contre. On va lui réapprendre à tolérer ses allergènes. Donc on augmente petit à petit la dose d'allergènes que le corps va pouvoir tolérer sans déclencher l'inflammation. On n'est pas guéri en vrai, on est toujours allergique, mais on a un seuil de tolérance élevé qui fait qu'en vie quotidienne, on est bien, on n'a plus de symptômes. On utilise pour ça des extraits d'allergènes standardisés qui sont soit sous forme de solution liquide, soit sous forme de comprimés lyophilisa, des comprimés qui vont fondre et qui se mettent sous la langue. Sous la langue, il y a des cellules particulières qui s'appellent les cellules dendritiques qui vont capter les allergènes et les amener au système immunitaire pour lui permettre d'apprendre à tolérer l'allergène. Le traitement est quotidien pendant 3 à 5 ans. Donc, c'est long. Ça demande de l'implication des patients, mais honnêtement, quand on est gêné par ces allergies, il y a une routine qui peut très vite se mettre en place et les traitements se passent très bien. L'allergologie, c'est une discipline transversale. Ça touche le nez, les poumons, la peau. Et finalement, on est complémentaire avec d'autres spécialités. Donc, c'est un travail en réseau. Vous avez là sur la zone droite de la diaporama, du diaporama toutes les pathologies prises en charge par les allergologues. Vous voyez que le champ est très vaste et on va pouvoir toucher différents organes. Et donc, ce travail en réseau est complémentaire et c'est vraiment important pour pouvoir prendre en charge globalement notre patient. On ne va pas le découper en petites tranches, on va prendre en charge vraiment globalement nos patients avec ses autres spécialités médicales et avec des professions paramédicales, les infirmiers, les infirmières en pratique avancée, les conseillers en environnement intérieur, qui sont des praticiens qui peuvent aller chez les patients pour faire un diagnostic de leur habitat, l'humidité, la teneur en acariens, la teneur en polluants de pollution intérieure, pour cibler les conseils. J'aurais pu citer aussi les kinés, les diététiciennes qui sont utiles pour cette prise en charge globale de nos patients. Et je voulais citer par exemple un parcours de soins qu'on a mis en place sur notre CPTS à Rive-Droite, avec tout un parcours de soins fléché pour les rhinites allergiques de l'enfant, qui font intervenir des ORL, des allergologues, des orthodontistes pour tous ces problèmes du développement maxillofacial des enfants, de ces enfants qui ont tendance à tout le temps respirer par la bouche. Et par le biais de ce réseau, d'outils de télémédecine tels que la téléexpertise, on fluidifie le parcours de soins de ces enfants allergiques. Je quitte un instant ma casquette de clinicienne pour prendre celle de CNPA, de Conseil National Professionnel, pour vous parler rapidement d'allergologie. Alors, l'allergologie, c'est une discipline très ancienne. La désensibilisation, ça a plus de 100 ans, 115 ans. C'est ancien. Mais la spécialité, elle date de 2017, moins de 10 ans. Résultat, en 2019, il y avait 422 allergologues. Donc, on doit être peut-être un peu moins de 500 actuellement. Il y a des zones blanches, vous voyez, sur la cartographie, il y a des zones où il n'y a pas d'allergologue. Alors, bien sûr, c'est quelque chose, je vous l'ai dit, qui était aussi un petit peu pratiqué par d'autres spécialités, les pneumologues, les ORL, les dermatologues font aussi de l'allergologie. Mais pour les prises en charge spécifiques, on est moins de 500. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas, on n'est pas nombreux? Parce que c'est une discipline récente et qu'il n'y a que 35 internes formés par an. Non pas qu'ils veulent pas, sans doute qu'il y en aurait plus qu'ils voudraient, mais parce qu'il n'y a pas de poste. Donc on œuvre pour développer, compte tenu de l'impact des allergies actuelles en France, qui ne fait qu'augmenter. Puisqu'on l'a vu, il y a 25 à 30% de la population française qui souffre d'allergies respiratoires. Tous n'ont pas besoin de consultation spécialisée en allergologie. Alors, ça, c'était une donnée de 2015 de l'Académie européenne d'allergologie qui avait estimé qu'environ 20% des patients allergiques avaient une forme sévère de leur allergie. Donc, on va faire les comptes. 20% de 18 millions, ça fait 3,6 millions de personnes qui auraient besoin de prise en charge spécialisée en allergologie. Et on est moins de 500. Donc, ceci juste pour souligner, on y travaille, on s'organise, on fait des réseaux, mais on a besoin d'un soutien fort des pouvoirs publics pour répondre aux enjeux de santé publique que sont les allergies. Il ne faut pas rester pessimiste. Il y a des perspectives importantes en allergologie, avec des progrès dans cette médecine qui est de plus en plus personnalisée, avec des traitements qui sont vraiment ciselés pour ce patient, selon ses allergies, selon sa sévérité, dans son environnement, ça c'est très spécifique à l'allergologie. Au niveau respiratoire, on prend en compte l'environnement. La biologie moléculaire au niveau biologique nous apporte des outils très importants. On a des nouvelles thérapies, notamment les biothérapies qui sont déjà développées dans les dermatites atopiques, dans les polyposes, dans certaines allergies alimentaires. Et donc dans les allergies respiratoires, ça se développe, et dans l'asthme sévère. On a parlé de l'organisation des soins, des réseaux, la télémédecine, les téléconsultations, les téléexpertises, on continue à le faire. Et puis les systèmes de prévention, bien entendu, pour essayer de freiner cette augmentation majeure des allergies respiratoires et le dépistage. Plus on intervient tôt, plus on évite l'aggravation des symptômes et le dépistage est important dès le plus jeune âge. Un petit focus sur la surveillance pollinique. Alors, la surveillance pollinique sont des capteurs qui sont répartis sur le territoire français et qui reproduisent les flux d'air d'une personne qui respire, tout simplement. Et ces flux d'air permettent de capter les pollens qui sont émis dans l'atmosphère à un instant T. Et on peut analyser ces pollens pour pouvoir émettre des alertes polléniques pour prévenir les patients selon leur allergie. Ils peuvent s'inscrire à des alertes polléniques pour savoir quand est-ce qu'il va falloir se méfier, prendre un petit peu les traitements en anticipant les expositions aux pollens. Et donc, cette surveillance pollinique a été confiée depuis 2025 à ATMO, une association qui avait déjà pour mission la surveillance au niveau pollution et qui donc a repris cette surveillance pollinique. Et puis, il y a des pollinariums sentinelles. Alors, un pollinarium sentinelle, c'est un jardin dans lequel on va planter les principales espèces allergisantes. Donc, on va planter un cyprès, un bouleau, des graminées, enfin voilà, toutes les principales espèces allergisantes. Et puis, on va observer leur état de floraison afin d'essayer d'identifier précisément le début et la fin de l'émission des pollens. Alors, il y en a déjà 6 en Nouvelle-Aquitaine, et puis celui de Bordeaux est en cours de finalisation. Il doit ouvrir en fin d'année pour avoir des alertes en temps réel dès l'année prochaine.
On va terminer en parlant un petit peu de Bordeaux. Quelle est la situation donc à Bordeaux pour ce qui est de l'allergologie? Il y a une dizaine à peu près d'allergologues sur Bordeaux. Il y en a 5 en libéral, 5 en ville. Et il y en a à peu près 5-6 qui sont installés à l'hôpital. Ça permet la prise en charge de l'ensemble des pathologies allergiques qui concernent l'enfant et l'adulte. En allergologie, on a la chance d'avoir une spécialité où on peut voir des enfants de quelques jours, de quelques semaines, jusqu'à des personnes âgées. On prend en charge, donc, comme l'a dit le docteur Palussière, des pathologies liées à la respiration, à la sphère ORL, mais également les allergies alimentaires, les suspicions d'allergie aux piqûres d'hyménoptères, guêpes, abeilles, mais également les allergies cutanées. Et donc très récemment, en novembre 2025, a ouvert donc l'UTA, l'unité transversale d'allergologie, au CHU de Bordeaux, sur le site Pellegrin. Qu'est-ce que l'UTA ? Donc c'est un niveau 3 de l'allergologie, qui permet la prise en charge des pathologies allergiques complexes. On parle d'unité transversale, puisqu'elle est au croisement donc, de plusieurs domaines, l'ORL, la pneumologie, la dermatologie, la médecine du travail, mais également la médecine interne. Elle permet la prise en charge allergologique d'éléments qui ne sont pas réalisables en ville, notamment les allergies médicamenteuses qui sont majoritairement, ultra majoritairement réalisées en centre hospitalier, mais également les allergies médicamenteuses graves, cutanées, que sont les toxidermies, l'allergo-anesthésie ou encore la prise en charge des angioédèmes, angioédèmes mastocytaires ou encore angioédèmes bradykiniques. Donc à l'UTA, sur le site de Pellegrin, on a un plateau technique dédié qui nous permet de réaliser des tests cutanés, prick tests, IDR, mais également les patch tests et la réalisation d'actes comme les EFR, l'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc, à l'UTA, on prend en charge les adultes, mais également, nous avons 3 anesthésistes qui sont là pour travailler sur les suspicions d'allergie médicamenteuse en paire opératoire, docteur Borde, Pellerin ou encore docteur Giraudon, qui sont anesthésistes de formation et qui travaillent donc en allergo-anesthésie. On a également la dermatologie avec la dermatopédiatrie qui nous permet de faire et des consultations et de l'hôpital de jour, notamment pour faire des tests de réintroduction. Alors là, on sort un petit peu des allergies respiratoires, mais on a également toutes les allergies alimentaires, donc les réintroductions de fruits à coque, de lait, d'œufs, mais également les réintroductions médicamenteuses. On a enfin le laboratoire d'immunologie, qui est une équipe très dynamique et qui nous permet de réaliser l'ensemble des actes de biologie médicale en rapport avec l'allergologie. Une partie de ces actes médicaux sont réalisables en ville, notamment le dosage des IgE, mais il y a toute une partie également qui n'est pas possible de faire en ville et donc qui est réalisée au CHU de Bordeaux, notamment les tests d'activation des basophiles ou encore les tests d'inhibition. Associé à ça, nous avons des internes, donc un interne par an au CHU de Bordeaux. En Nouvelle-Aquitaine, il y en a 3, il y en a un à Bordeaux, un à Toulouse et puis à Limoges. Les cadres de santé, mais également l'équipe infirmière et l'équipe qui permet de gérer le secrétariat. Et l'ensemble donc, de ces acteurs vont permettre la prise en charge du patient de façon la plus optimale possible. Donc l'UTA, l'unité transversale, elle est au centre désormais de la prise en charge de l'allergologie à Bordeaux et au CHU. Elle est en lien direct avec la médecine de ville, et donc j'ai un petit mot pour le docteur Hervé Masson, qui drive l'APALA, qui est l'association de promotion de l'allergologie en Nouvelle-Aquitaine, donc l'ensemble des médecins libéraux. Également, donc, elle fait le lien avec les autres spécialités, on l'a dit, pneumologie, ORL, dermato, médecine interne. Elle permet également le lien avec les autres services que l'on peut retrouver dans les hôpitaux périphériques, et notamment au CH de Mont-de-Marsan, où il y a une UTA également qui est drivée par le docteur Evangeline Clark, qui a ouvert maintenant il y a 5-6 ans. Et puis, elle est directement en lien avec les instances dirigeantes de l'allergologie française afin de participer à la rédaction et de la mise en place des différentes recommandations et permettre à l'ensemble donc, des allergologues de Bordeaux, mais également de Nouvelle-Aquitaine, de travailler avec les dernières connaissances.
Voilà pour notre petit panorama des allergies respiratoires. Donc, l'idée, c'est de sortir de cette jolie petite image que vous avez là, des fleurs et des gens qui se mouchent. C'est très mignon. Les allergies respiratoires, c'est pas ça. C'est des gens qui souffrent, qui ont des symptômes gênants dans leur vie quotidienne, qui ont une qualité de vie dégradée, qui ont une altération de leur santé. Et donc, il faut sortir des stéréotypes. Il y a un impact médical, individuel et socio-économique collectif qui peut être important, qui est important. L'idée, c'est de grader la sévérité des symptômes, de pouvoir prendre en charge globalement nos patients et en collaboration avec les autres spécialités, les paramédicaux et les services hospitaliers lorsque c'est nécessaire. Je vous remercie de votre attention.